Monsieur Bernard Leroy, bonjour et merci d'être parmi nous sur ONU Info, aux Nations Unies. Vous êtes membre de l'organe international de contrôle des stupéfiants, l'OICS, et vous avez été réélu justement en mars 2020 pour un mandat de 5 ans. Félicitations. Un nouveau rapport de l'OICS vient de sortir et ce nouveau rapport se penche sur la question des flux financiers illicites. Peut-être pour commencer, qu'est-ce que cela signifie flux financiers illicites et quels sont justement les liens entre flux financiers illicites et le trafic de drogue ?
Alors, il faut savoir que l'argent du crime, globalement, ça représente 1600 à 2200 milliards de dollars. Et dans ce paquet, la drogue, ça représente entre 426 et 652 milliards de dollars. Donc, des sommes considérables. Les flux financiers, ça représente l'argent qui est gagné, qui est transféré et utilisé illégalement par le crime organisé transnational. Donc, ils l'utilisent pour maximiser leurs profits globalement dans leurs activités, parce qu'il faut savoir que le crime organisé, en général, est multicarte, c'est-à-dire ils font de la drogue, mais ils font aussi de l'exploitation de la prostitution, ils font de la délinquance dans des domaines écologiques et dans des tas d'autres domaines. Et donc, cet argent, le grand souci, c'est qu'il est utilisé pour renforcer leur pouvoir et notamment pour corrompre. Et donc, c'est une des choses auxquelles je tiens beaucoup, c'est de dire que le crime organisé, ce n'est pas uniquement un problème d'ordre public, ce n'est pas uniquement pour la drogue un problème de santé publique, c'est aussi un problème d'état de droit. Dans un certain nombre d'États, et je l'ai vu en Afrique, ils sont capables d'acheter l'élection présidentielle. Et donc, il faut savoir qu'il y a là une puissance du crime organisé qui est redoutable. Parce que les flux financiers illicites, notamment dans les pays en développement, c'est une menace pour la stabilité et la sécurité de ces pays. Cela se traduit par une sortie de capitaux qui est très préjudiciable, une alimentation des banques des pays développés, des mécanismes offshore qui sont très préjudiciables, et globalement un affaiblissement du système financier international. Et cela présente une incidence sur le développement durable. Il y a une ponction sur les finances publiques dans ces États qui ont de ce fait des ressources moindres, et la bonne gouvernance est affaiblie par la corruption. Il faut savoir que 88 milliards environ de dollars s'évaporent chaque année ainsi en Afrique, et ça représente 3,7% du PIB.
Et vous parlez justement des pays en développement. Est-ce que ça touche aussi les pays développés, ces flux financiers ?
Bien sûr, parce que cet argent est utilisé massivement dans les pays développés. Les criminels chefs de bande rêvent d'avoir des résidences sur la Côte d'Azur en France. Et dans le contexte de ce qui se passe actuellement, où vous savez, on en a la preuve. Et donc, l'argent, ils ne vont pas le réinvestir pour développer leur pays. Ils l'investissent dans une idée de sécuriser leurs avoirs pour après mener la belle vie qu'ils souhaitent. Et il y a donc, de ce point de vue-là, des mécanismes pour transférer et utiliser illégalement l'argent du crime organisé. Donc, ça se traduit par des mécanismes de blanchiment, des recours massifs à la hawala, qui est un système de compensation locale, qui est mis en place par, à l'origine, les travailleurs pakistanais à Londres. Pour rapatrier l'argent pour leur famille, au lieu de l'envoyer au Pakistan, il y avait une sorte de chambre des compensations qui trouvait des gens du Pakistan qui voulaient faire un virement vers l'Angleterre et des gens en Angleterre qui voulaient virer vers le Pakistan. Et on fait donc des compensations locales. Et donc, Hawala est un système redoutable puisqu'il n'y a pas de lien entre l'émetteur de l'argent sale et le récepteur à cause de ce système de double compensation. On a beaucoup de recyclage dans le commerce, on a de la contrebande d'espèces, on a des systèmes de sociétés écrans, des investissements massifs dans l'immobilier, Et même, on a vu en France, par exemple, des trafiquants de drogue venant notamment d'Afrique qui, à partir d'un certain moment dans leur développement, font en sorte que certains de leurs enfants fassent des études de fiscalité, de droit financier, pour les placer en Suisse et ailleurs, pour qu'ils gèrent les affaires du réseau. On a, il faut le comprendre, un rôle déterminant de la mondialisation. La mondialisation accélère les échanges, mais rend impossibles les contrôles. Par exemple, au niveau de la mondialisation, on ne peut pas fouiller tous les containers. On ne fouille que 2% des containers, ce qui donne vraiment une large marge aux criminels. Et vous savez qu'il y a énormément d'envois rapides, et notamment dans le trafic d'une nouvelle drogue, le fentanyl, par courrier express. Le système bloque si on fouille tout. Donc on fouille au-dessus de 20 grammes. Donc les criminels envoient des blisters de moins de 20 grammes. Donc la mondialisation est une chance pour l'humanité, mais elle est aussi un danger compte tenu de l'exploitation qui en est faite de plus en plus par le crime organisé.
Et justement, le rapport dit que les conséquences sont importantes justement sur la société en général. Donc vous avez des exemples concrets ?
Oui, alors on a par exemple un développement de l'usage des cybermonnaies, d'Internet, du paiement par téléphone mobile. Et on a aussi une fascination de la jeunesse pour tout cela, parce que la jeunesse est très branchée à Internet. Et c'est sur Internet que ça se passe. Et donc, on a un problème vraiment avec les réseaux sociaux. Je pense que les réseaux sociaux, c'est quelque chose de merveilleux. Et surtout, quand on est en situation de crise, comme on l'est depuis quelques jours, on est bien content de voir l'importance de la liberté de communiquer. Et bien, en même temps, on assiste sur les réseaux sociaux une valorisation de l'usage des drogues, et en particulier du cannabis, une facilitation de l'acquisition en vue de l'usage toxicomaniaque, non médical, et on constate qu'il y a un lien entre l'exposition des jeunes aux médias et leur niveau d'usage de drogue.
Et je pense que justement les médias sociaux ont permis la promotion de l'usage non médical des drogues, surtout, comme vous disiez, parmi les jeunes. Donc comment ceci peut être contrôlé? Est-ce qu'il y a un moyen que cela peut être contrôlé?
Alors moi je crois vraiment à l'éducation dans les familles. C'est vraiment important, parce que tout ça s'inscrit dans des dérives beaucoup plus graves. Moi, j'habite à proximité de Paris, je prends le train pour y aller tous les jours, je vois tous les gens penchés sur leur téléphone dans le train, il y a une sorte de toxicomanie au téléphone. Et donc, je crois que nos sociétés doivent apprendre aux enfants à vivre en prenant du recul par rapport à ces choses-là. Alors, ce n'est pas évident, mais je crois que c'est une condition sine qua non si on ne veut pas en faire des zombies. C'est vraiment important qu'on ait, de ce point de vue-là, une éducation. Mais je voudrais aussi insister sur la responsabilité des grandes sociétés qui font fonctionner les réseaux sociaux, qui gagnent énormément d'argent, et qui, au fond, ne se préoccupent pas tellement de l'impact négatif de ce qu'ils font. J'ai constaté, par exemple, un problème qui est très grave sur le cannabis. Il y a trois sortes d'usages du cannabis. Il y a l'usage médical, on peut utiliser le cannabis dans un certain nombre de conditions. Il y a l'usage qui est toxicomaniaque, et puis il y a l'usage aussi qui est de confort, avec maintenant le CBD. Eh bien, les sociétés les très puissantes dans notre monde actuellement s'intéressent à ce qu'elles peuvent tirer comme argent du CBD, du commerce du CBD, et un certain nombre d'entre elles, à la limite, sont capables de passer à l'as la question de l'usage non médical, mais purement toxicomaniaque du cannabis. Donc, le corollaire, à mon sens, de la mondialisation, c'est la nécessité de la responsabilisation de tout le monde, et il faut que le monde des affaires soit aussi partie prenante à ce niveau-là.
Et justement, je pense que la position de l'OICS sur l'usage du cannabis, la chose dont on parlait, et sa dépénalisation, donc est-ce une bonne chose et pourquoi?
Alors, pour nous, OICS, nous sommes accusés de tous les crimes et objets de toutes les vindictes. Il faut comprendre que dans le système ONU, c'est les États qui décident. c'est la commission des stupéfiants, la CND, où il y a 54 États qui votent la politique du monde sur ces questions. Il y a 2 ans, l'Organisation mondiale de la santé a souhaité qu'on facilite l'usage du CBD, ou du moins qu'on ne le transforme pas en infraction. Alors il faut dire que le CBD n'était pas classé et que ça tombait sous la classification générale du cannabis. La commission des stupéfiants consultée sur ce point-là a refusé de supprimer les contrôles en ce qui concerne le CBD. Donc nous, OICS, nous renvoyons les États à leurs responsabilités. C'est à eux de décider. Nous, nous sommes là pour appliquer ce qu'ils décident et nous ne sommes pas là pour dire ce qu'il faut faire.
On a vu une augmentation des cas de décès par surdose de drogue au Canada et aux États-Unis. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment peut-on arriver à contrôler justement cet usage et ces surdoses, surtout parmi les jeunes?
Alors, vous voulez parler du fentanyl.
Tout à fait.
Du fentanyl, j'ai connu ça quand j'étais un jeune juge d'instruction à la fin des années 70. Vous voyez, ça ne me rajeunit pas. On avait un très gros problème d'usage d'héroïne en Europe qui s'est estompé. Nous avons maintenant un autre opiacé dont l'usage remonte et de manière assez scandaleuse, un laboratoire américain a dit « si vous avez des bleus à l'âme, vous pouvez prendre du fentanyl ». Alors que le fentanyl s'est fait pour la salle d'opération. Mais c'était une optique commerciale proprement scandaleuse et d'ailleurs il y a des procès ouverts contre eux du fait de l'impact que ça a eu. Quand vous prenez de l'héroïne, il y a une élasticité formidable selon que vous êtes débutant ou aguerri. Quand vous prenez du fentanyl, il n'y a aucune élasticité. Vous augmentez la dose de 0,15 et vous mourrez. Et c'est pour ça qu'on a 100 000 morts actuellement par an aux États-Unis et au Canada ensemble. Et le problème sous cet angle-là, c'est effectivement, il y a une sorte de mimétisme d'un certain nombre de jeunes, il y a une absence d'information, il y a une irresponsabilité des laboratoires concernés, et puis il y a maintenant dans certains pays d'Asie, on se met à fabriquer des précurseurs du fentanyl qui aggravent le problème. Donc là, nous sommes en présence de quelque chose qui est très grave parce que l'Europe, par exemple, a tendance, après coup, à prendre les mauvaises tendances des Américains, notamment. Donc, je ne sais pas si le fentanyl va débarquer massivement dans nos pays européens, mais 100 000 morts par an, c'est quand même quelque chose de très inquiétant. Et c'est vraiment, il est vraiment urgent qu'il y ait une prise de conscience collective là-dessus.
Et justement, quel est le rôle de l'OICS dans tout ce qui est contrôle ou d'information sur les drogues illicites et aussi cette histoire de flux financier illicite? Que fait justement l'OICS?
Alors, l'OICS, il est en quelque sorte le gendarme. La commission des stupéfiants, c'est le Parlement, et l'ONUDC, c'est l'exécutif. Donc, nous, on veille à 3 choses. C'est que le trafic de drogue soit combattu, que l'usage de drogue soit contrôlé, mais nous avons une autre responsabilité dont on n'a pas parlé avec vous, qui est la mise à disposition de stupéfiants pour la médecine. On a besoin de la morphine à l'hôpital et il faut savoir qu'à l'heure actuelle, sur 7 milliards de terriens, il y en a seulement 2 milliards qui peuvent disposer, quand ils ont un cancer, des opérations douloureuses, de ce qu'il faut comme morphine. Donc nous, OICS, nous essayons de redresser la balance et de faire en sorte que les zones du monde qui sont beaucoup moins favorisées puissent aussi disposer des stupéfiants nécessaires du point de vue médical. En ce qui concerne l'aspect financier, nous avons développé aussi un certain nombre d'initiatives et nous ne sommes pas les seuls. Il y a le FATF, il y a l'OCDE, il y a au niveau européen, les institutions européennes qui maintenant essaye de développer au maximum les outils. Il y a une convention de 1988 qui a très bien développé toute une série d'outils. On ne peut plus maintenant invoquer le secret bancaire pour ne pas répondre dans une enquête. On est obligé d'accepter de coopérer avec les services de police et de justice des autres pays. Et donc, nous, nous faisons un travail qui est à la fois de formation et aussi de mise en relation des différents partenaires Et aussi, nous avons un certain nombre de banques de données pour travailler sur ces sujets. Alors, c'est une révolution qui s'est passée. Moi, j'ai participé à l'élaboration de la Convention de 88. En ce temps-là, le secret bancaire était la règle. Il faut savoir qu'en ce temps-là, un pays demandait un renseignement à un autre, il faisait le mort et on considérait que c'était une réponse. Depuis la Convention de 1988, les pays, s'ils ne veulent pas collaborer, doivent répondre par écrit pourquoi. Donc, si vous voulez, il s'est passé beaucoup de choses et il y a quand même dans le monde une tendance générale à travailler ensemble pour être plus efficace dans ce domaine.
Peut-être une dernière question, Monsieur Bernard Leroy. Bien sûr, nous avons une situation mondiale en ce moment. Est-ce que justement les restrictions qui a lieu en ce moment sur la Russie peut réduire justement les flux financiers illicites ou est-ce qu'ils vont dans d'autres directions? Comment voyez-vous cette situation?
C'est une question très délicate et puis bon, la Russie n'est pas au centre des processus dont nous parlons. Le Covid, par exemple, est un phénomène qui a joué un rôle très important puisqu'il a rendu très difficile l'acheminement de la drogue par avion et a renforcé l'utilisation des moyens maritimes. Et par ailleurs, le Covid a eu un effet, c'est que les trafiquants s'intéressent de plus en plus aux faux médicaments et aux drogues de synthèse. En ce qui concerne les événements contemporains, je pense que ça peut jouer un rôle sur les routes de la drogue. L'héroïne venant d'Afghanistan qui allait en Russie peut-être va pouvoir moins y entrer. Elle doit passer par les États du Caucase et tout cela devient très sensible. Peut-être qu'il va y avoir des rapports aussi avec la difficulté à payer les choses, les flux financiers, mais globalement, ce n'est pas un des aspects essentiels de la problématique.
Et comment voyez-vous les prochains mois et les prochaines années, justement, dans tout ce domaine de drogue? Est-ce qu'il y a des progrès ou vous voyez la situation vraiment se détériorer?
Les deux. Alors, je pense qu'il y a une conscientisation de nos sociétés et un développement de la coopération entre les pays qui est formidable. Mais en même temps, vous voyez, j'ai connu l'héroïne, phénomène très important des années 70. Il avait presque diminué. Maintenant, il y a une relance phénoménale de la consommation d'héroïne. Les trafiquants sont très astucieux. Ils disent, si tu prends de la cocaïne, l'atterrissage est désagréable après, prends de l'héroïne. Et donc, les types qui prenaient de l'héroïne autrefois, c'était des paumés à problème. Maintenant, l'usager sniffer de cocaïne va prendre éventuellement de l'héroïne en fin de parcours. Donc tout cela est préoccupant. Il y a une banalisation de la cocaïne. La cocaïne était la drogue des Happy Few's et je vois dans les pays comme la France, on le trouve même dans les villages. Donc il y a une diffusion extrêmement importante. L'Asie, pendant des siècles, était dans les drogues sédatives. C'était plutôt l'opium. Maintenant, c'est la performance qui est recherchée. Ils sont dans les drogues à effet stimulant. Donc, c'est une nouvelle drogue de synthèse, c'est l'ecstasy, c'est les nouvelles amphétamines. Donc, nous avons, si vous voulez, une situation qui est balancée du point de vue du tableau. On a à la fois des prises de conscience, une coopération renforcée, mais des nouvelles menaces.
Monsieur Bernard Leroy,
merci beaucoup.
Merci encore.